Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Détection de fièvre systématique dans les aéroports, dans les ports. Bon, on n'a même pas les appareils aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a traité un peu tout cela avec une grande légèreté.
Comment protéger la France du coronavirus ? L'inquiétude grandit sur la Côte d'Azur alors que l'Italie du Nord connaît une brutale explosion du nombre de cas. Le monde doit se préparer à une pandémie, dit pour la première fois l'OMS. Panique sur les marchés financiers, plongeons ce soir de toutes les bourses mondiales. À l'actualité, c'est aussi cette voiture folle en Allemagne. Acte délibéré, dit la police, des dizaines de blessés lors d'un carnaval. Le procès Fillon, reporté pour cause de grève des avocats. Et le mystère du rocher de Plougastel, enfin levé.
La tendance météo, Sébastien, pour demain, c'est une perturbation qui arrive dans les prochaines heures et qui va nous apporter de la pluie, des nuages, du vent et de la neige en montagne. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est un mot que l'OMS refusait de prononcer jusqu'à présent à propos du coronavirus. Cette fois, les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé estiment que le monde doit bien se préparer à une pandémie. Désormais, le virus touche une trentaine de pays. Inquiétude importante en Corée du Sud, mais aussi très loin de la Chine, en Iran, en Italie. Et conséquence immédiate, Emmanuel Duteil, les bourses mondiales ont toutes dévissé aujourd'hui.
Oui, hein, toutes les grandes places européennes clôturent en baisse de 4% ou plus. L'une des plus fortes baisses est en Italie. C'est assez logique, fort recul d'environ 3% également en ce moment même aux États-Unis. On le dit souvent, mais les investisseurs détestent par-dessus tout l'incertitude. Et là, avec la propagation du virus hors de Chine, les entreprises ont bien du mal à se faire une idée de l'impact de cette crise. La seule certitude, c'est que cet impact sera lourd. Il y a des risques, bien évidemment, sur la production, avec un possible manque de matières premières, de pièces, etc. Tout ce qu'il faut pour produire, en tout cas. Parmi les secteurs les plus touchés, on peut justement citer l'automobile. La Chine, c'est un gros marché, par exemple, pour PSA. Du coup, ce soir, en bourse, Peugeot perd 7%. Idem pour Renault. On peut aussi citer l'aérien, là, presque 9% de baisse pour une action comme Air France KLM. Il faut dire que 90% des vols ont été supprimés en direction ou en provenance de la Chine. Le secteur du tourisme est aussi très impacté. Par ricochet, les marques de luxe aussi sont en difficulté. Les Chinois consomment beaucoup chez eux et également hors de chez eux. La maison mère d'Yves Saint Laurent recule ce soir de presque 5% en bourse et à peu près pareil pour LVMH. En revanche, pour ceux qui font souvent leur plein, là il y a quand même une bonne nouvelle. Le prix de l'essence, on peut l'affirmer, va baisser. Pourquoi ? Parce que le prix du baril de pétrole a encore reculé aujourd'hui.
Les informations d'Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Merci, je le disais. L'Italie a connu une brutale augmentation du nombre de cas. 5 morts recensés, 11 villes ont été mises en quarantaine. Aujourd'hui, les passagers d'un bus en provenance de Milan ont été confinés à Lyon. Le chauffeur toussait, il a passé un certain nombre de tests. Et la France a pris une vingtaine de recommandations pour tous ceux qui reviennent du nord de l'Italie. Éviter toute sortie non indispensable. Prendre sa température deux fois par jour, privilégier le télétravail et ne pas envoyer les enfants à l'école ou à la crèche. Inquiétude qui grandit, notamment côté français, sur la Côte d'Azur, tout près de la frontière, Frédéric Michel.
Alors, dans les Alpes-Maritimes, aucun cas n'a pour l'instant été détecté. Le préfet se veut rassurant. Contrairement à ce que demandaient les élus, il n'a pas déclenché de plan d'urgence. Il assure que des réunions quotidiennes seront organisées avec les spécialistes de santé. Une cellule d'information pour renseigner la population a été mise en place et le CHU de Nice est prêt à accueillir les patients atteints du Covid-19. Le préfet Bernard Gonzalez.
Nous allons également équiper cet établissement pour réaliser des diagnostics et faire des levées de doutes sur les situations rencontrées. Nous allons également mettre en place un système de deuxième ligne avec des établissements tout autour de Nice susceptibles d'accueillir les malades une fois traités.
Très critique depuis plusieurs heures sur la gestion de la crise par le gouvernement, le député niçois Eric Ciotti en attend plus des autorités.
Détection de fièvre systématique dans les aéroports, dans les ports, possibilité de le faire à la frontière. Bon, on n'a même pas les appareils aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a traité un peu tout cela avec une grande légèreté depuis quelques jours.
Concernant le renforcement du contrôle des frontières, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agit pas d'une priorité. À Menton, la circulation entre les deux pays a donc lieu normalement. Et pour l'instant, aucun des grands événements de la région, la fête du citron ou le carnaval de Nice, n'ont été annulés.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur.
Et puis on va se retrouver évidemment dans un petit instant. Sébastien, l'actualité, c'est également, je vous laisse enchaîner.
Harvey Weinstein, jugé coupable de viol et d'agression sexuelle à New York ce soir, le producteur est envoyé en prison le temps de connaître sa peine. Il sera fixé le 11 mars. Il risque jusqu'à 25 ans d'incarcération, mais pas la perpétuité car le jury l'a disculpé de la circonstance aggravante de comportement prédateur. L'horreur en Allemagne. Aujourd'hui, la police parle d'un acte délibéré. Une voiture folle a foncé dans la foule lors d'un carnaval. Bilan 30 blessés, dont 7 graves, notamment des enfants. Ça s'est passé dans la même région, Canao, où des fusillades ont eu lieu la semaine dernière. En France, c'est l'image du jour. Un ancien Premier ministre au tribunal, François Fillon. Premier jour d'audience à son procès pour le détournement de plus d'1 million d'euros d'argent public. L'emploi présumé fictif de son épouse Pénélope. Mais l'audience a tourné court, Salomé Legrand, à cause de la grève des avocats.
Et oui, une audience de 10 minutes à peine, suspension pour délibérer incluse. Mine grave, costume et tailleur sombre, Pénélope et François Fillon n'ont fait que décliner leur identité à la barre avant que leurs avocats ne demandent le renvoi. Maître Antonin Lévy, conseil de François Fillon, a brièvement expliqué leur démarche, soutenir symboliquement la grève de leurs confrères contre la réforme de leur régime de retraite. Ils estiment qu'un tiers des cabinets les plus petits seraient amenés à disparaître et qu'il s'agit d'une question d'accès au droit pour le justiciable, tous les justiciables. Demande acceptée par le tribunal. Le procès va donc reprendre mercredi après-midi avec deux questions prioritaires de constitutionnalité avant d'aborder le fond, la réalité du travail de Pénélope Fillon. D'abord, auprès de son mari, puis de son suppléant Marc Joulot, qui était également présent sur le banc des prévenus. Les juges estiment que plus d'1 million d'euros ont été détournés au total, mais également le sujet de l'emploi de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes et celui des enfants, Marie et Charles, auprès de leur père. 117 000 euros de salaire versés quand François Fillon était sénateur et eux, à peine diplômés.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, rendez-vous donc mercredi en Grande-Bretagne. C'est le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui était devant la justice aujourd'hui. La justice qui doit décider ou non de l'extrader vers les États-Unis. L'Australien avait révélé des centaines de milliers de documents confidentiels de l'armée américaine. Aux États-Unis, il risque 175 ans de prison cumulée pour espionnage. Puis on va terminer avec un mystère, celui du rocher de Plougastel dans le Finistère. Cette pierre gravée d'inscriptions jusque-là incompréhensible. Jusque-là, car trois spécialistes viennent de les déchiffrer en partie. Le maire avait lancé un concours. Alors Jean-Jacques Héry, dites-nous, le rocher a parlé, ça y est, qu'est-ce qu'il dit ?
Oui, il a révélé la clé d'un mystère celtique vieux de plus de 230 ans. Les signes kabbalistiques gravés dans le rocher étaient une transcription phonétique de la langue bretonne. C'est un spécialiste en études celtiques qui l'a découvert. Et ce que raconte la pierre, c'est une histoire de mer, une histoire triste et émouvante, mêlant amitié et naufrage en rade de Brest. Pour comprendre, il faut remonter en 1786, explique le maire de Plougastel, Dominique Cap.
Un marin de la marine française qui s'est noyé dans la rade de Brest au large de Plougastel. Et donc c'est un collègue à lui qui, pour lui rendre hommage, a gravé cette histoire. Alors que dit le texte exactement ? Je vais vous le dire. Serge est mort quand mal exercé à ramer. L'an dernier, son bateau fut retourné par le vent. Il est temps de donner, à partir du large, l'hommage du brick de sa compagnie 1787.
Le noyé s'appelait Serge Lebrisse, le graveur de pierre Grégoire Artelot. Et la prochaine étape pour la mairie de Plougastel sera de mener des recherches à propos du parcours de ces deux hommes du XVIIIe siècle. Cela permettra peut-être de réussir à traduire les 20% du texte qui continuent pour le moment de confier leur mystère à la pierre.
Le récit signé Jean-Jacques Héry, merci.